de demain.
Les planètes se sont formées en même temps que le Soleil ou après ?
Ces données sont rendues publiques pour la première fois et sont fort intéressantes à décrypter. Il en ressort qu'il vaut mieux se faire poser une prothèse de genou que de se faire opérer du côlon.
Qui n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau ?
Une femme mathématicienne a pour la première fois reçu la prestigieuse médaille Fields.
On parle beaucoup de maths depuis l'annonce des résultats PISA.
Un phénomène qui touche 15 à 20% de la population suisse.
Un astéroïde s'approche de la Terre plus vite qu'un missile balistique.
Salut jeunesse, ici c'est Chris pour l'Oreille des Kids. Bienvenue dans notre vaisseau des cas, le vaisseau scientifique de l'Oreille des Kids.
Qu'est-ce qu'un OGM ?
C'est ce machin qui est informe. Et ben, il va, la gravitation va jouer son rôle.
Corpus.
C'est quoi l'effet de serre ? Et finalement, on fera une expérience dans notre labo que toi aussi tu pourras faire à la maison.
Fantin Moreno, bonjour, bienvenue pour cette première dans Babylone.
Bonjour, merci.
Vous faites beau classe.
Exactement.
Voilà, et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous allons parler de presse qui s'adresse aux jeunes, une presse toute particulière, la presse scientifique, à l'occasion de la parution du tout premier numéro de Campus Junior. Alors, c'était comment cette lecture ?
Bon, cette lecture était bien, même si le public, c'est les 8-12 ans. Hein. Malgré tout, je me suis senti quand même concerné, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en fin d'heure précédente, c'est une bonne excuse aussi pour se replonger dans certains sujets. J'étais pas très bon en science, je vous l'avoue, du coup, ça m'a permis de redécouvrir certaines choses. Alors, Campus Junior, qu'est-ce que c'est ? Le premier numéro est donc sorti en décembre. C'est un magazine qui sortira 4 fois par an, donc tous les 3 mois. Il fait une petite trentaine de pages et il est gratuit, hein, ça il faut le dire quand même, pour autant que l'on s'abonne, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Eh bien un peu de tout, de l'archéologie, de l'astronomie, des arts également, on ne reste pas que dans la science technique. Et puis bien sûr il y a différents jeux, différents concours, puisque l'on s'adresse à des jeunes. En résumé, pour ce qui est de transmettre le savoir académique aux générations futures, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit, mais je pense aussi que ça pourrait être une bonne bouffée d'air frais.
Alors pour illustrer, pour mettre des couleurs dans cette émission, vous vous êtes rendu auprès de jeunes qui suivaient des moments d'initiation scientifique. Où étiez-vous ?
Alors on est parti tout d'abord à l'espace des inventions, avec des enfants de 14 ans. Et ils ont eu une réaction différente de ceux que je suis allé voir ensuite à l'éprouvette à l'Université de Lausanne. C'est un laboratoire public, on entendra précisément de quoi il s'agit tout à l'heure. Là, les enfants avaient une dizaine d'années, donc un peu plus innocents, un peu plus émerveillés aussi. Mais dans les deux cas, les retours sont assez chouettes à entendre, on verra.
Voilà, et dans Babylone, on a parlé du bioscope ouvert par l'Université de Genève. Donc on voit, ça foisonne, les propositions sont là. Tous les musées qui traitent de sciences ont des programmes spécifiques pour les jeunes. Tania Chitil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste productrice à la RTS. Vous êtes la marraine de la plateforme RTS Découverte, qui s'occupe notamment d'expliquer la science aux plus jeunes. Alors vous, petit retour en arrière, flashback, vous aviez le petit kit du chimiste enfant. Comment la science est-elle venue à vous ?
Mais pas du tout. En fait, si, on faisait plein de trucs. J'avais plusieurs frères et sœurs, mais j'avais mon grand frère qui avait 2 ans de plus que moi. Et oui, on n'avait pas le kit du petit chimiste, parce que si vous vous souvenez bien, quand on était petit, nous... ça n'existait pas encore vraiment, mais on avait les grandes encyclopédies, le comment du pourquoi, où effectivement on avait à la maison tout l'univers. C'est un peu comme Internet, voyez, mais avec des pages, papier, et on pouvait feuilleter, etc. Oui, mais non, j'étais pas une scientifique à tout prix, mais j'y suis tombée en commençant à la télé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, parce qu'on m'avait demandé de présenter l'émission de télévision éducative. Donc, d'abord, expliquer les choses aux gens. Déjà, à ce moment-là, ça commençait. Et puis ensuite, les années sont passées. Et puis, Roland Goerg et Gérard Louvin sont venus me chercher pour Territoire 21. Et puis, ben là, j'ai pu directement faire de la science tout le temps. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça.
Alors, d'où est venue cette idée de créer une forme papier, finalement, à TSR Découverte ?
Alors, c'est pas la forme papier de RTS Découverte, parce que c'est l'Université de Genève qui est là derrière. En fait, c'est les gens de l'Université de Genève qui sont venus me chercher. J'avais déjà fait avec eux un petit fascicule qui s'appelait Manger, bouger, une question d'énergie, qui était un petit cahier qui explique, et qui existe toujours, hein, aux enfants comment en fait la nourriture nous apporte l'énergie dans notre corps. Et quand j'ai eu fini d'écrire ça avec les gens de l'Université de Genève, moi de mon côté j'ai fait le dossier multimédia. L'Université de Genève a publié ça, évidemment je les ai aidés à écrire de manière, on va dire, vulgarisée. Et ben, ils sont venus me chercher, puis ils m'ont dit, ben voilà, nous, existe campus à l'Université de Genève. Sophie Hulot, qui est venue me chercher, m'a dit, ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu m'aiderais?
Alors, RTS Découverte, présentation de la plateforme, où il y a de l'original et de la captation.
Oui, en fait, le but de RTS Découverte, c'est véritablement de présenter au public tout ce que la RTS, en général, aussi bien radio, télé, etc., fait pour l'éducation, c'est-à-dire expliquer les choses aux gens. C'est de la science au sens large, c'est aussi bien des sciences dures, de la physique, de la biologie, etc., que des sciences souples, tout le côté sciences humaines. On est vraiment à moitié-moitié. Et ça, c'était le but premier. Puis petit à petit, on a commencé à produire nos propres contenus. Comme j'étais JRI, c'est-à-dire journaliste, reporter image, je savais faire fonctionner une caméra. Donc j'ai commencé à prendre ma caméra, aller interviewer les profs et rajouter des sujets, des interviews.
Alors le public maintenant de Campus Junior, donc magazine gratuit qui s'adresse aux jeunes, c'est bien sûr les écoles, mais pas que cela.
Non non, on peut abonner ses enfants, on peut abonner ses petits enfants, c'est vraiment on s'adresse, on a mis une tranche d'âge, mais on l'a pas écrit en gros sur le magazine. C'est plutôt les 8-12 ans parce qu'il faut quand même savoir déjà lire. Hein. Et pour avoir des enfants, la lecture fluide et tout, c'est pas forcément 6-7 ans. Et puis, ça va jusqu'à l'adolescence, parce que après les ados, pour en avoir aussi, si vous voulez, un élevage à la maison.
Ouais, mais bon, c'est pour les gosses, quoi. Il y a des dessins et tout. Voilà, je suis obligée de lire ça.
Donc, c'est entre les deux, et c'est le moment où ils sont véritablement aussi curieux, où on a envie de leur expliquer les choses, et c'est là où ils sont le plus captifs.
Avant le magazine Campus Junior, il y avait aussi le magazine Campus pour adultes, si on veut bien.
Il existe toujours.
Hein. Voilà, donc vous vous calquez sur les mêmes sujets pour l'un que vous vulgarisez pour l'autre, ou bien vous repartez vraiment de zéro pour Campus Junior?
Mais ça dépend. Parce que bon, là, on a sorti le premier où on s'est pas calqué dessus, mais par exemple, le prochain qui va sortir en mars, effectivement, on s'est un peu calqué dessus parce que ils ont traité dans celui de décembre, les exoplanètes, parce que ça fait 20 ans que Michel Mayer et Didier Queloz ont découvert la première exoplanète. Et nous, derrière, on arrive avec aussi les exoplanètes en mars. On s'est dit une chose, c'est que si les parents reçoivent Campus à la maison, s'ils reçoivent 3 mois plus tard le Campus Junior, ben déjà on se dit que tiens, ben ils pourront expliquer aussi à leurs enfants, ils pourront faire des choses comme ça. Puis il y a des fois les exoplanètes, c'est cette année quoi, c'est les 20 ans, donc on pouvait le sortir en mars, on pouvait le sortir aussi en juin, mais on a décidé de le faire en mars, donc forcément que des sujets se retrouvent dans l'un et dans l'autre.
Et pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une exoplanète.
Ah, c'est une planète qui n'est pas dans notre système solaire. Vous savez,
voilà,
c'est pas
ça Mars, vous l'explique Vénus. Justement.
Voilà.
Le temps file. Je vous propose de nous rendre en compagnie de Fantin Moreno, faire des expériences, parce que pour apprendre, rien de tel.
C'est vrai, rien de tel. L'espace des inventions, je vous en parlais tout à l'heure, c'est là qu'on va se rendre pour commencer. C'est un étrange bâtiment, on le découvre presque caché dans le sol après avoir parcouru la vallée de la jeunesse à Lausanne. Alors vraiment, on ne trouverait pas l'espace des inventions par hasard. Mais une fois la porte ouverte, j'ai retrouvé en moi l'enfant curieux qui courait dans les musées en hurlant. Puisque je suis tombé nez à nez avec plein d'animations et de constructions colorées, toutes sur le thème de l'œil, puisque l'exposition du moment se nomme L'œil nu. Alors après avoir parcouru cet endroit singulier, on a rencontré sa directrice, Emmanuelle Giacometti, que l'on va entendre. Elle nous présente les enjeux de ce lieu, alors qu'au même moment, des écoliers de Renan d'environ 14 ans entament leur visite.
Est-ce que vous savez grâce à quoi on voit, à part à l'œil, mais quel phénomène? On voit grâce à la lumière. Parce que sans lumière, quand il n'y a pas de lumière, quand il fait sombre dans une pièce, on ne voit pas. Donc on voit grâce à la lumière. Est-ce que vous savez les différents...
Emmanuelle Giacometti, bonjour.
Bonjour.
Alors là, on a une visite qui est en cours, juste un peu plus loin. C'est une partie importante de votre clientèle, ces visites.
Alors c'est une partie importante en termes de chiffres, mais c'est aussi une partie importante en termes de public, parce que tous les jeunes, tous les enfants ne viennent pas ici avec leurs parents. En revanche, on espère que beaucoup d'entre eux ont l'opportunité de venir avec l'école. Donc oui, les classes, c'est vraiment très important pour nous.
Quelle partie, à peu près en pourcentage, de votre clientèle?
Entre un quart et un tiers des visiteurs.
Le reste, ce sont des familles, généralement?
Alors, le reste, ce sont des familles et d'autres types de groupes, mais effectivement, sur beaucoup de familles.
L'espace des inventions se décrit comme un centre d'éveil aux sciences et aux techniques. Est-ce qu'on peut déjà deviner ici le rôle important de l'éducation dans votre travail?
Alors, si ça s'appelle centre d'éveil, c'est pas un hasard. C'est qu'on se prétend pas du tout un substitut à l'école ou un lieu véritablement d'éducation. C'est un lieu plutôt où on va donner envie. Les sciences, malheureusement, souvent souffrent d'une réputation un peu difficile. Et notre objectif, c'est de donner envie d'aller au-delà de peut-être la première impression de « oh, j'ai pas envie, justement ». Donc, c'est vraiment la première étape, se dire « oui, c'est intéressant ». Puis peut-être que si je croche un peu, je vais découvrir des choses qui vont changer ma manière de percevoir les choses, de voir le monde. Donc, c'est vraiment un rôle un peu différent qu'un rôle éducatif, strictement. Même si, bien sûr, qu'on peut y apprendre des choses et que l'école peut l'utiliser comme un outil supplémentaire dans l'apprentissage des sciences, mais c'est un petit peu différent quand même d'un rôle strictement éducatif.
Comme je le comprends, le but est aussi d'augmenter l'intérêt pour les sciences. Il y a trop peu d'intérêt pour les sciences, selon vous, actuellement?
Alors, il y a trop peu d'intérêt, je pense, et il y a surtout beaucoup de réticence, beaucoup d'appréhension. À dire, oh là là, mais ça va être trop compliqué, moi je vais rien y comprendre. Et c'est tout à fait regrettable pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'on vit dans un monde qui est éminemment technologique et que cette appréhension, elle nous empêche de comprendre finalement le fonctionnement du monde dans lequel on est plongé de gré ou de force, mais enfin en tout cas dans lequel on est plongé.
Et du coup, pour augmenter cet intérêt, quelles sont vos stratégies de communication auprès des jeunes?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de stratégie de communication, mais la manière qu'on a de travailler, donc de concevoir en particulier les expositions, c'est de travailler beaucoup sur la scénographie, sur la mise en scène, sur la façon dont on va parler ou montrer un phénomène. Limiter par exemple les textes, parce qu'on sait que, étant donné que nos expos sont interactives, ce qui intéresse les gens, c'est de faire les expériences, c'est pas de lire des tartines de textes. Si l'intérêt y est, les tartines de textes, ils pourront les lire ailleurs, plus tard, et c'est très bien. Mais notre rôle, il est, comme je l'ai déjà dit, vraiment de donner envie. Donc pour ça, on met beaucoup, beaucoup l'accent sur la manière de présenter les choses, que ce soit en termes de forme d'expérience, de couleur, d'ergonomie, de manière de dire les choses, de dessin pour expliquer, etc. C'est vraiment important pour nous.
Peu de texte, voilà une des clés. Et puis vous m'ôtez les mots de la bouche parce que la scénographie, effectivement, je voulais vous en dire deux mots. C'est très coloré. Ça donne vraiment envie quand on est un jeune d'aller toucher, d'aller essayer ces différentes expériences. Il y a un côté très ludique, très visuel. Lorsqu'on s'adresse aux jeunes, Emmanuel Giacometti, en quoi est-ce qu'on pense la scénographie différemment d'une expo, entre guillemets, pour adultes?
Pour vous dire la vérité, je ne suis pas sûre qu'on la pense si différemment que ça. Souvent, les gens nous disent « Ah oui, les enfants, ils aiment toucher. Ben, » oui. Et puis les adultes, ils n'aiment pas toucher, peut-être. Donc, là où c'est important de se rappeler qu'on parle à des enfants, c'est par rapport à leur intérêt vis-à-vis de certaines thématiques. Il y a certaines choses qui ne les concernent pas encore, qui ne les intéressent pas encore, donc on va pas en parler. Ou il y a un niveau d'abstraction au-delà duquel on ne va pas aller parce qu'on sait que ça ne va pas être possible pour eux de comprendre ce dont on parle. Donc, c'est plus par rapport au niveau de ce qu'on va aborder. Mais la manière... Finalement, la scénographie et la manière de mettre en scène, elle est, à mon sens, aussi bien adaptée pour des adultes que pour des enfants. Et on a souvent plein de parents ou d'adultes qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai appris des choses. Ah, mais c'est... » Voilà. Donc, c'est pas du tout réservé aux enfants.
Mais alors, quelles sont les clés pour bien vulgariser? Parce que c'est déjà pas facile avec les adultes qui sont non initiés à la science. Mais alors pour les enfants, c'est encore un niveau au-dessus dans la difficulté, non?
Alors moi, la clé, ce que je répète tout le temps et qui est un peu mon motto, c'est de ne pas vouloir tout dire. Il ne faut pas imaginer... Les gens ici vont passer une heure et demie, ok? Ce n'est pas en une heure et demie qu'en sortant, ils vont avoir retenu et appris l'intégralité d'un cours sur l'œil et la vision. Non. Parce que ça saurait, et ça serait longtemps qu'on n'y aurait plus besoin d'aller à l'école si en une heure et demie on pouvait absorber tout ça. Donc il faut accepter de ne pas dire certaines choses, de ne pas tout raconter, de choisir ce qu'on a envie de dire et de choisir ce qu'on aimerait que les gens retiennent. Et c'est un exercice qui paraît, quand on le dit comme ça, qui paraît simple, mais c'est extrêmement difficile. Parce qu'on a envie de dire plein de trucs, de raconter, d'aller plus loin, dire « Ah, ça, ce serait chouette !» Mais si on va trop loin, on perd tout. Donc c'est vraiment de délaguer au maximum pour garder quand même du contenu, bien sûr. Il ne faut pas arriver à un vide à la fin. Mais pour ne garder qu'un contenu qui est susceptible d'être retenu, d'être intéressant et de donner envie à, en tout cas, une partie des gens qui auront visité l'expo de chercher plus loin d'autres choses de leur côté.
Vrai ?
Oui.
Alors, je te laisse ouvrir la porte.
Je pense que c'est vrai.
soir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je te laisse lire.
Certains animaux vont en effet au-delà des lumières vues par les animaux, par exemple.
On choisit ce qu'on explique, vous l'avez mentionné. Il y a donc des sujets, malgré tout, vous renoncez à les expliquer aux jeunes. Parce qu'ils ne sont pas prêts ou parce qu'ils doivent les comprendre par eux-mêmes ou...
Pour différentes raisons, mais d'une part parce que notre espace d'exposition est limité et donc qu'on ne va pas pouvoir de toute façon pas tout dire. Donc il faut choisir dans le discours les choses qui nous semblent les plus importantes, les plus susceptibles d'être au niveau des enfants, puisque c'est quand même notre public premier, donc entre 8, 10, 12 ans. Et effectivement, il y a certaines choses où on va se dire, ben non, ça, on va pas en parler, ou alors on va glisser dessus. Je vous donne un exemple. Dans une expo précédente sur le thème de l'énergie, on s'était dit, c'est difficile de faire une expo sur l'énergie et de ne pas parler à un moment donné de E égale MC2, qui est, voilà, la formule que tout le monde connaît, même si on sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc on l'a glissé dans une expérience. Mais plus pour nous dire qu'on l'avait mis quelque part et qu'il ne nous soit pas reproché de ne pas en avoir parlé, que comme un élément central où on prétendait l'expliquer vraiment profondément, parce que c'est clairement, voilà, ça aurait été trop, vouloir aller trop loin. Donc oui, il faut faire des choix.
Aujourd'hui, ce sont des enfants de 14 ans, vous mentionniez les 8, 10, 12 ans. Est-ce qu'il y a une différence entre les préadolescents, les adolescents et puis les enfants, vraiment, comment vous la voyez cette différence au niveau de la façon qu'ils ont d'aborder votre expo?
Ce qui est certain, c'est que les adolescents ont une capacité d'abstraction plus grande. Il y a certaines notions pour des enfants de 7 ou 8 ans qui ne sont pas encore compréhensibles, qu'ils le deviennent après à l'adolescence. Donc, on peut aller plus loin dans le discours. Après, toutes les classes bénéficient de visites guidées et le travail des animateurs, c'est justement d'adapter le discours aux enfants ou aux jeunes qu'ils ont en face d'eux. Et avec certains plus petits, ben, on va glisser sur certaines choses qu'on va pouvoir approfondir avec des plus grands. Parce que le contenu de l'expo le permet. Le discours, il peut très bien dépasser l'expérience qui est proposée.
Puis jusqu'à présent, quels ont été les retours que vous recevez des jeunes par rapport à ce que vous leur proposez?
C'est très difficile à dire, je trouve, parce que les retours sont souvent très positifs. Ouais, c'était super, c'était chouette. Il y a une ou deux expériences un peu plus fortes, un peu plus marquantes dont les gens se souviennent. C'est difficile d'avoir des retours critiques, véritablement. Et c'est difficile pour nous de savoir de quoi vont-ils se souvenir dans une semaine, ces jeunes qui sont là aujourd'hui de cette visite. Ça, pour nous, c'est vraiment difficile de le savoir. Mais les retours qu'on a, comme ça, spontanément, sont plutôt assez positifs. Et le fait de pouvoir faire des expériences, de pouvoir tester des choses, ben c'est assez stimulant. Et moi, je me dis que même s'ils n'ont pas forcément retenu beaucoup de choses dans une semaine, hein, de quoi se souviendront-ils au niveau du contenu, même s'ils ne se souviennent pas de grand-chose, s'il leur reste le souvenir qu'ils ont passé un bon moment dans un lieu de science, c'est déjà beaucoup pour la suite.
On entend souvent que les enfants sont un public ultra exigeant. Vous le ressentez comme ça aussi?
Ils sont exigeants, c'est-à-dire que si ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas la politesse de faire semblant. C'est dans ce sens-là qu'ils sont exigeants. Si on vise à côté, on voit très bien les yeux qui partent, on se dit « Ouh là là, faut recentrer le discours ». Alors oui, c'est un public exigeant dans ce sens-là, c'est parce que c'est pas un public poli. Mais en même temps, ils sont aussi très preneurs, je trouve qu'ils sont aussi très ouverts. Donc c'est une exigence de... Il faut savoir les capter, les retenir. Mais au-delà de ça, ils sont partants, je trouve, très partants.
Les groupes de jeunes sont guidés ici au travers de vos différents ateliers, mais est-ce qu'il n'est pas bon aussi pour un enfant de faire ses propres découvertes à son rythme, selon son propre cheminement, qui n'est pas forcément celui d'un groupe complet? Il y a peut-être un équilibre là qui est difficile à trouver.
C'est effectivement, vous avez raison, il faudrait que chacun puisse aller à son rythme, mais ça c'est aussi l'école idéale qui voudrait que chaque enfant puisse avancer à son rythme, et c'est souvent extrêmement difficile à mettre en place. Nous, on propose des visites guidées de manière systématique à tous les groupes, mais on leur laisse à la fin de la visite un moment libre. Enfin, on demande à l'enseignant ou à l'accompagnant de prévoir ce moment-là pour qu'ils puissent refaire des choses ou aller vers d'autres choses, justement à son rythme et selon leurs propres envies. Maintenant, si on les laisse complètement libres dans l'exposition, ils savent pas très bien comment s'y prendre, en fait. Ils sont dans un lieu qui est difficile à définir, donc ils vont vite avoir des comportements de type place de jeu. Ils vont vite être dans le jeu pur. Le jeu, c'est bien, mais il faut que ça s'accompagne aussi d'une réflexion et d'un discours. Donc, je pense que le mix de la visite accompagnée suivie d'un moment libre est probablement une solution assez intéressante à ce niveau-là. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres options. Évidemment que si on pouvait accompagner chaque enfant à son rythme, ce serait idéal, mais voilà, c'est assez évidemment difficile à mettre en place.
On élargit un petit peu nos horizons parce qu'il y a un effort dans plusieurs domaines actuellement pour se rapprocher vraiment de la jeunesse, aussi au cinéma, au théâtre, etc. On est presque dans un phénomène de mode, non ?
Probablement, probablement. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on... Alors, c'est un... évidemment, c'est le public de demain. Donc, on se dit que si on leur donne envie de faire de la science ou autre chose, ben, ils poursuivront demain. Mais effectivement, il y a une mode assez forte à vouloir sensibiliser les enfants et les former à tout. Bon, voilà. Ma foi, on en reviendra certainement, mais pour ce qui concerne les sciences, c'est quand même un constat qui n'est pas aussi récent que ça. C'est quand même un constat qui date de plusieurs décennies, de la désaffection des sciences et de la difficulté à intéresser les jeunes pour les sciences. Donc l'espace des inventions, est pas, à mon avis, simplement une mode. C'est vraiment le fruit, au contraire, d'une réflexion qui date de longtemps déjà. Et je pense que c'est important que l'intérêt des sciences soit là chez une grande partie d'entre eux, parce que c'est aussi ça qui leur donne la possibilité d'avoir un regard critique sur le monde dans lequel ils sont, quoi.
Est-ce que malgré tout, ces activités, elles ne sont pas accessibles que pour une certaine classe d'enfants ? Parce que hors école, bien sûr, là, dans le cadre d'une école, les enfants n'ont pas le choix, mais hors école, est-ce que, voilà, c'est pas un petit peu réservé aux enfants, de guillemets, de bonne famille, ou du moins à des futurs premiers de classe, un petit peu ?
Alors, ça ne leur est pas réservé, mais ça, c'est un constat que toutes les institutions culturelles feront, c'est qu'on a de la peine à toucher tous les publics, c'est une réalité. Alors, est-ce que pour autant, on devrait rien faire ? C'est une question que se posent toutes les institutions culturelles, qu'elles soient scientifiques, artistiques ou historiques, ce que vous voulez. Et c'est une question à laquelle on n'a pas trouvé de réponse. Même l'école ne trouve pas une réponse aussi satisfaisante que ce qu'on voudrait. Ça, c'est, disons, voilà, il y a des classes sociales et il y a des habitudes, des pratiques différentes. Et c'est vrai que toutes les familles de toutes les classes ne viennent pas chez nous. C'est vrai. Nous, ce qui nous fait plaisir, on a de temps en temps des téléphones où les parents nous appellent en nous disant « Bon, c'est où votre truc là ? Parce que mon gamin, il est venu avec la classe et là, il me tanne pour venir chez vous. Alors expliquez-moi. » Et là, on se dit « Ben, on a réussi quelque chose. » Mais évidemment, c'est pas la majorité. Il faut être réaliste.
La dernière boîte. Avoir deux yeux est un moyen plutôt malin pour permettre la vision tridimensionnelle.
Oui.
Qui veut dire que
oui, c'est vrai.
grâce à nos deux yeux qu'on peut voir en trois dimensions. Est-ce que
oui.
C'est vrai ?
Oui, grâce
oui
à
c'est
deux.
Vrai.
Parce que
oui,
si tu vois qu'avec vrai. Un, on voit à 2D.
C'est vrai.
T'as bien aimé l'exposition ou...
Oui, c'était bien.
Tu penses que tu serais venu si c'était pas l'école qui te forçait ?
Non, je serais pas venu.
Toi, tu peux faire le test plus que t'es devant.
On voit des lettres.
Qu'est-ce que tu vois là ?
C'est quoi que t'as le plus aimé ici ?
L'expérience avec. Où il fallait mettre les couleurs ensemble.
Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire ?
Bah, en fait, il y avait une vitre rouge et puis il fallait essayer de remettre les couleurs ensemble. Puis c'était un peu difficile.
Ce qui est un peu difficile, c'est ce qui te plaît le plus, en fait.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre visite que t'aimerais bien faire, mis à part les expos de science ?
Voir la musique.
La musique, ouais. Mm-hmm. Et la science, si tu pouvais refaire, tu irais aussi ?
Non, pas trop.
Pas trop la science ?
Non.
Tu trouves que c'est un peu un truc d'intello ?
Oui.
Bon, les amis, ça vous a plu, cette exposition ? C'est quoi que vous avez préféré ?
Des trucs qu'on a fait avec les clés pour répondre aux réponses, et puis...
Le vrai ou faux ?
Ouais. Ou voir comment il était notre œil.
Et ça vous aide à comprendre ce que vous faites en cours, de venir ici ?
Oui, oui, ça nous aide beaucoup. On peut savoir comment on peut mélanger les couleurs et comment ça marche, en fait. C'est intéressant.
Parce que là, c'est quand même un petit peu l'école qui vous force, entre guillemets, à venir. Est-ce que vous seriez venu si c'était pas pour l'école ?
Je pense pas, parce que j'aimais pas que ça existait, cet endroit, en fait. C'est pour ça que j'aurais même pas pu venir ici, en fait.
Vous aimeriez bien, même si c'est en dehors de l'école, par exemple, soit avec des potes, soit avec vos parents, de venir dans d'autres expositions, ça vous dirait ou pas du tout ?
Oui, avec des potes, oui.
Avec des parents, je pense que ce serait bien aussi. C'est pas la première fois que je viens ici, ça m'a bien replu, puisque ça fait longtemps que je viens pas.
Si vous deviez aller dans des expositions en dehors de l'école...
Comme l'école.
Je sais pas, justement, est-ce que vous préfériez les sciences, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines que vous aimeriez bien découvrir par des... D'autres
domaines, en fait.
Comme quoi ?
Bah, un peu plus... qui vient un peu plus avec les maths, des expositions avec des chiffres, des trucs du genre,
moi,
calcul.
Les expositions romaines, que ça montre du passé et tout ça.
L'histoire, en fait. Alors ?
Ouais, l'histoire, ça m'intéresse beaucoup.
Aussi les trucs d'espace, c'est pas mal. On peut savoir les voyages qu'ils ont fait, comment ils ont construit les vaisseaux et tout ça. C'est très intéressant, j'aime bien ça.
Vous trouvez que vous avez assez d'expositions en général ?
à l'école ou vous aimeriez vous trouver...
Il y avoir un peu plus parce que là, bah, on n'a qu'une, je crois, toute l'année. Alors, c'est un peu bien de découvrir de nouvelles choses aussi et comme ça marche.
Le regard du professeur un petit peu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition ?
Moi, j'avais déjà vu, en fait, mais ici, je trouve que c'est toujours bien, parce qu'il y a à la fois des trucs techniques et puis des jeux un peu plus ludiques et simples. Donc, pour eux, c'est vraiment assez agréable de pouvoir voir ça. Après, ce qui reste, c'est ça, c'est surtout des expériences un peu marquantes de jeux qu'ils ont trouvé amusants. La théorie, vraiment, dans son ensemble, il y a bien sûr des choses qui vont être perdues en cours de route, hein, 45 minutes, comme ça, un peu de texte à la suite. C'est pas forcément facile de tout garder. Mais tout ce qui est interactif ou vraiment ils se rendent compte du fonctionnement de l'œil, moi je trouve que c'est vraiment super. Et puis,
En tout cas, j'ai parlé à quelques-uns de vos élèves, ils ont l'air de dire que, apparemment, vu que là vous travaillez sur l'œil justement en cours de sciences, ça a l'air de passablement les aider. Vous pensez que c'est le cas ?
J'imagine que oui, parce que voir vraiment en grand les iris, les différentes parties, voir le fonctionnement des couleurs, les couleurs complémentaires. Ça, c'est des trucs qu'ils ont dû faire en science. Et puis, voir ça concrètement, c'est clair que c'est autre chose que sur des fiches.
Au niveau du système un peu global, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de ce type de sortie d'exposition pour les enfants ? Il en faudrait plus ou...
Alors, non, il n'y a jamais assez, c'est sûr. On peut toujours avoir envie de plus, de choses différentes. Là, bien sûr, il faut les budgets aussi là, pour l'école, pour ensuite envoyer les élèves.
J'allais vous demander, c'est des questions plutôt budgétaires. Alors, parce qu'au-dessus, l'envie est là aussi au niveau de vos supérieurs.
Moi, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir les emmener le plus possible dans des musées et des expositions. Après, il faut que la commune donne un peu d'argent. Donc, à Renan, on a de la chance, on a quand même une commune qui soutient assez bien. Et puis, voilà. Il faut que les villes créent des musées adaptés, que les écoles mettent en place les structures pour amener les élèves là-bas. Mais je trouve que ça a déjà bien progressé. Parce que si je me rappelle ce que j'ai fait quand j'avais leur âge, c'était annuellement une expérience peut-être au musée romain du coin et puis ça s'arrêtait là. Donc là c'est vraiment en bonne voie, mais encore pas mal de choses à faire, c'est sûr.
Mais certains animaux, ils voient encore au-delà, ils voient plus que ces couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on dit ici, la carpe, qui est un poisson, il voit au-delà du rouge, il voit les infrarouges, que nous on ne perçoit pas comme ça. Et l'abeille, elle voit au-delà du violet, elle voit les ultraviolets. Donc c'est comme si elle voyait des couleurs que nous on ne voit pas.
L'œil nu à découvrir à l'espace des inventions à Lausanne. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 25 octobre 2015.
Say that they're always gonna stay.
never going to let go of that wire. He says that he will, but he's just a liar. Two birds on a wire. One tries to fly away, and the other watches him close from that wire. He says he wants to as well, but he is a liar. Two birds on a wire. One tries to fly away, and the other.
Two Birds on a Wire, c'était Regina Spektor dans Babylone, où nous parlons aujourd'hui de la façon dont on transmet la science aux plus jeunes, et ceci à l'occasion de la parution du premier numéro du magazine Campus Junior. Avec nous en direct, Tania Chitil, journaliste productrice pour RTS Découverte. Alors on l'a entendu, Emmanuel Giacometti nous le disait, les enfants n'ont pas la politesse de faire semblant, c'est un public exigeant. Est-ce que vous avez à cœur d'éveiller plutôt qu'éduquer? C'est les mots qu'elle a employés.
Mais je crois qu'elle a vraiment, elle a dit des choses avec lesquelles j'étais vraiment souvent d'accord pour faire beaucoup de choses pour les enfants. C'est ça, c'est de l'éveil, c'est de la curiosité. Éduquer, je suis pas sûre. C'est pour ça qu'on a toujours les problèmes avec RTS Découverte, qu'on dit c'est le site éducatif. Si on dit c'est le site éducatif de la RTS, on sait déjà que les mômes vont pas les voir.
Pédagogique, encore moins.
Ouais, non. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, c'est vraiment l'éveil à la curiosité en disant, mais voilà, je te montre quelque chose. Peut-être qu'il y aura une petite étoile dans tes yeux. Il y a quelque chose. Ça va. Il y a une petite graine qui est posée et ça va pousser.
Mmh. On parle de pénurie de femmes en science. Mmh. Il y a un accent particulier pour les petites filles, les jeunes filles.
Alors, oui, on sait qu'il faut, enfin, il faudrait pouvoir éduquer, enfin, favoriser les sciences chez les jeunes filles. Non, dans Campus Junior, on fait pas de plus garçons, plus filles. Alors, on fait attention à beaucoup de choses, à la couleur, à ceci, de mettre des garçons, des filles, des blancs, des noirs, des... C'est pas facile, hein, voilà, toutes les communautés et tout.
Politiquement correct.
Politiquement correct, mais pour moi, non, parce que alors, on s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles. J'aime pas tellement cette espèce de, voilà, de séparation entre les deux.
On a aussi entendu parler d'une espèce, cette espèce de mode actuelle de tout faire en version pour enfants. Quel est votre avis là-dessus, Tania Chitil? Vous suivez le courant un petit peu avec Campus Junior, non?
Oui, alors effectivement, là, on suit le courant, mais en fait, je me disais pas qu'il y avait un courant là-dessus pour moi. C'est-à-dire que peut-être que là, on a trouvé le financement. Parce que derrière, vous savez parfaitement ce qu'il y a, c'est toujours une question d'argent. Il y a une question d'énergie et de volonté. Par exemple, dans Campus Junior, c'est vraiment une énergie et une volonté de quelques personnes de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Mais derrière, il faut de l'argent. Donc, à partir du moment où vous avez de l'argent et que vous arrivez à gratter les fonds de tiroir pour faire des choses, et puis surtout de pas compter vos heures de travail, parce que nous, c'est ce qu'on fait avec Campus Junior, on produit quelque chose. Je sais pas s'il y a une véritable mode pour moi. Quand on était petit, il y avait effectivement parfois aussi des expositions pour nous, mais il y avait moins d'endroits, moins de lieux. Mais je sais pas. Ouais, peut-être qu'on suit la mode en fait.
C'est un public, c'est un nouveau public, cela dit.
C'est un nouveau public, on a envie d'éveiller les choses. Mais je pense que c'est intéressant et c'est nécessaire. C'est nécessaire de leur dire, posez-vous des questions, soyez curieux, remettez en cause les choses.
Moi, ce qui m'a frappé dans ce Campus Junior, et c'est une des choses qui me fait très plaisir, c'est que vous parlez de chercheurs et de scientifiques suisses.
C'est le but. Parce qu'il y a déjà des magazines scientifiques pour les enfants en France. Hein. Tous nos enfants ont été abonnés à aux éditions Bayard, il y a de tout. Hein. Et là, c'est la première fois qu'en Suisse romande, on arrive, ou en Suisse peut-être, mais je ne connais pas bien la presse suisse alémanique, donc je ne peux pas là, de se dire, voilà, on a énormément de chercheurs et de recherches qui se passent en Suisse sur l'arc lémanique, mais même à Neuchâtel, à Fribourg, même dans le Jura, même s'il n'y a pas encore d'université, mais il y a bientôt une antenne universitaire. Il y a énormément de chercheurs et il faut les mettre en avant. Ça se passe chez nous. C'est pas toujours dire que c'est à Paris, en France. C'est aussi chez nous et leur donner la parole et montrer aux gens ce qui se passe chez nous. C'est pour ça que Campus Junior est né.
Mm-hmm. présentation de quelques-unes des têtes, enfin, ce sont toutes des pointures.
Oui,
scientifique.
Oui, oui. Alors, on va chercher les meilleurs. Non, c'est pas ça. C'est que oui, c'est des pointures scientifiques, des gens qui ont publié, mais aussi des gens qui ont envie de transmettre leur savoir. Il faut se rendre compte que les scientifiques ont vraiment envie de transmettre leur savoir. Certains savent le faire très bien, certains savent moins bien le faire, et on est aussi là pour leur donner la possibilité de s'exprimer.
Alors, il y a Charles Bonnet, par exemple. Mm-hmm. Qui d'autre?
Oh, il y a plein. Bon, alors effectivement, il y a Didier Pitté qui, lui, sait très bien expliquer les choses, puisque on a parlé justement de se laver les mains qui sauve des vies, etc. Mais pour expliquer aussi aux enfants pourquoi leurs parents leur disent peut-être d'aller se laver les mains avant d'aller manger. Parce que si vous voulez, ça ne leur sort pas directement comme ça. Mais on a effectivement beaucoup, beaucoup de gens. Il y a un Julien Beck aussi qui est archéologue ici à l'Université de Genève et qui parle de tout le travail qu'ils ont fait à bord de Planète Solar pour faire de l'archéologie sous-marine. Donc il y a beaucoup de monde à qui on donne la parole. Yann Blanc aussi pour Vermeer.
Donc c'est une coproduction avec l'Université de Genève. D'autres universités, bien sûr, font des efforts magnifiques pour s'adresser aux jeunes et moins jeunes. C'est le cas de l'Éprouvette, Fantin.
Exactement. L'Éprouvette, c'est le deuxième lieu où je me suis rendu. Alors, c'est à l'Université de Lausanne. C'est un laboratoire public. On va entendre qu'est-ce que ça veut dire, laboratoire public, finalement. C'était un mystère pour moi au départ. Tout le monde, toutes et tous, sont bienvenus là-bas pour des ateliers pratiques sur vraiment toutes sortes de thèmes. Mais alors, on s'est rendu dans le bâtiment amphipôle de l'UNIL pour suivre un de ces ateliers. Il est donné par une étudiante en biologie, tout simplement, dans une ambiance bon enfant, avec des chercheurs, des professeurs, comme ça, qui naviguent autour de nous, passant dans les rangs vacants à leurs occupations. Ils continuent de faire leurs recherches. Et ce jour-là, les prouvettes, ce sont des enfants, je le disais, de 10 ans, qui ont découvert l'atelier à l'occasion de l'anniversaire, tout simplement, d'un de leurs camarades, et ils se sont plongés dans le monde de l'ADN. Mathilde Dittier, vous êtes chargée de projet ici à l'Université de Lausanne, à l'Éprouvette plus précisément. Laboratoire public, c'est comme ça que vous me l'avez défini, l'Éprouvette.
Ça veut dire que c'est ouvert à tout public, aussi bien des écoles que des associations type patients, des associations sportives. Qui n'est pas initié aux sciences, qui veut s'y initier et découvrir ce qui se fait dans les laboratoires de recherche.
Donc on n'a pas besoin d'une raison particulière, on n'a pas besoin non plus d'être forcément une classe d'école, on peut simplement prendre rendez-vous et venir faire des ateliers, c'est ça?
Tout à fait. Il y a des systèmes qui permettent de venir soit en groupe, soit individuellement pour venir s'initier sur différentes thématiques autour de l'ADN, des sciences de la vie plus généralement.
Sur le site internet de l'Éprouvette, on lit que vous dispensez, je cite, des activités de médiation scientifique. C'est de la vulgarisation, en fait, la médiation scientifique.
Tout à fait. On pourrait parler de vulgarisation, mais on n'aime pas trop le terme de vulgarisation. Ça a tendance, justement, à mettre la personne qui n'est pas initiée à un niveau plutôt bas d'incompréhension. Et puis le scientifique sur un haut sommet qui, lui, comprend tout et est plus compétent que n'importe qui.
Vous trouvez que le travail est bien fait, de manière générale, en tout cas ici en Suisse romande, pour ce qui est d'ouvrir un petit peu la science, notamment aux plus jeunes?
Oui, je pense que c'est un travail qui est bien fait. Il y a beaucoup de départements ou beaucoup de personnes ou de scientifiques qui s'y intéressent et puis qui le font très très bien. Je pense que c'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus demandé. Donc il y a de plus en plus effectivement de gens qui s'y prêtent. Ouais.
Il vient de sortir le journal Campus Junior à Genève, adressé aux 8-12 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouveauté?
Alors je pense que c'est une bonne initiative, surtout le 8-12 ans. C'est peut-être à cet âge-là qu'on est intéressé par les sciences, la nature d'une manière générale. Je pense que c'est une bonne chose, effectivement, que ce sera un bon support aussi pour les classes et... Ça ouvre probablement des ambitions pour aller effectivement faire de la recherche.
J'étais à l'Espace des Inventions également, et là-bas, la scénographie est très typée jeune. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de jeux, c'est très tactile comme ça. À l'Éprouvette, on est plus dans un environnement comme vous, en fait, comme vous et vos collègues, vraiment dans un environnement de scientifique. Il y a des blouses blanches, on est directement sur les microscopes. C'est une volonté aussi de pas forcément distraire avec des jeux ou autres, mais de vraiment mettre les enfants dans une situation de petit scientifique en herbe, en fait.
Oui, tout à fait. On veut vraiment montrer, donner une dimension professionnelle de la science, vraiment les mettre dans les conditions d'un chercheur aujourd'hui, de manière justement à pouvoir ouvrir le débat sur les enjeux de société, économique, politique que ça peut représenter avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles recherches.
Si vous deviez changer quelque chose, améliorer quelque chose dans la manière dont la science est transmise aux jeunes, qu'est-ce que vous changeriez ?
Je pense qu'il faudrait plus d'aspects pratiques. Je pense que malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens, aussi bien personnels que financiers, pour faciliter ça. Et Vincent, tu pourrais peut-être, toi, dire quelque chose. Parce que...
Vincent Parisi, vous êtes professeur aussi.
Oui, j'enseigne dans un gymnase à Lausanne. Et puis, je suis médiateur scientifique à l'éprouvette.
J'ai l'impression que vous aviez envie de rajouter quelque chose sur cette dernière question.
Moi, je pense que l'enseignement des sciences est assez bien valorisé dans les établissements du secondaire en Suisse. Après, je dirais que c'est plutôt dans la société en général que les sciences ne sont pas assez valorisées. D'où l'intérêt d'un lieu comme l'éprouvette pour sensibiliser des gens justement qui n'ont peut-être pas suivi des filières scientifiques pendant leur parcours scolaire, d'avoir l'occasion de retoucher à la science, de la pratiquer et de se reposer des questions autour de ces problématiques scientifiques pour pouvoir ensuite donner leur avis de citoyen lorsque notamment des votations arrivent et qu'elles sont en lien avec des problématiques scientifiques, ce qui arrive finalement assez souvent.
Voilà, on continue
les expériences. Alors maintenant on va aller au microscope.
Maman, oui, attends.
Qu'est-ce que ça fait un microscope?
Ça agrandit les choses.
Ouais.
On peut voir les trucs vraiment minuscules.
Exactement.
Les microbes, fais gaffe.
Regarde.
Et on voit des petits trucs.
Avec le bouton.
On met à fond. Et trop cool.
Et voilà.
Ça bouge.
Timothée, toi, t'as bientôt 10 ans. C'est la première fois que tu fais un atelier scientifique comme aujourd'hui?
Oui. Et je trouve assez bien. Comme ça, je peux regarder en quelque sorte un peu une partie de moi.
Si toi, tu devais faire une fête pour ton anniversaire, dans quel genre d'endroit tu viendrais?
Ici, c'est assez bien, j'aimerais bien.
T'as appris des choses?
Oui, beaucoup de choses. Comment est notre ADN? Je l'ai vu comment on fait, puis comment récupérer notre ADN. Et, comment étaient les cellules des animaux? Qu'est-ce qu'il y avait dans les cellules d'animaux?
Qu'est-ce que t'as préféré faire?
Regarder au microscope. C'était la première fois que je regardais dans un microscope.
Tu penses que tu prendras science plus tard à l'école?
Oui, je pense bien. La science, c'est assez bien.
Melvin, toi, t'as 9 ans. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, c'était génial. C'était vraiment cool.
Je t'ai entendu dire au tout début de l'atelier, le métier que t'aimerais faire plus tard, c'était quoi?
Laborantin.
C'est quoi qui te plaît dans ce métier?
C'est que je peux faire des recherches, je peux aussi utiliser le microscope et c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et puis, regarder les microbes, voir si on en trouve des nouveaux.
Tu reviendras ici?
Oui, peut-être, pour mon anniversaire.
À la fin, on pourrait faire ça.
Belle visite à ce laboratoire public, l'éprouvette de l'UNIL. Tania Chétil, il y a deux façons finalement de présenter la science aux jeunes. D'une part, avec cette figure mythique de la blouse blanche et du microscope. Cette image-là nous fait toujours rêver. Et puis l'autre qui est peut-être celle que vous proposez d'ailleurs dans Campus Junior, qui est plus colorée, plus enfantine, avec toutes les images qui vont avec. Et je me demandais s'il y avait une incidence avec maintenant toute cette mode des mangas, cette mode japonaise. Est-ce que bientôt on va, je sais pas, avoir des petits robots et des grands yeux qui vont nous accueillir dans ces lieux d'expérimentation?
Je sais pas, je pense que la blouse blanche et tout ça fascine. C'est le prestige de l'uniforme, c'est comme l'uniforme de policier ou de pompier. Ça va avec on a envie, le petit garçon avait envie de devenir laborantin, je pense aussi, pour porter cette blouse blanche. Mais les deux choses sont pas du tout antagonistes. Mmh. Je pense que ce qu'ils font à l'éprouvette et ce qui est génial, c'est de mettre les mains à la pâte, quoi. Les gosses peuvent aller regarder. Ils disaient, j'ai regardé pour la première fois dans un microscope. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas faire d'abord avec des journaux, ou même nous, quand on le fait sur Internet ou à la télé ou même à la radio, on peut pas leur donner ça. Et c'est extraordinaire qu'on puisse leur donner ça en dehors. Et les gosses, bah écoutez-les, quoi, ça donne envie de... Ça
c'est
donne,
cool.
Oui, oui, c'est cool. Ça donne envie de les intéresser, de leur donner encore plus à grignoter.
On a entendu Vincent Parisien, un des collaborateurs de l'éprouvette, parler des enjeux de la science en vue, par exemple, de votation. Ils sont là aussi, en fait, pour donner les outils aux générations futures, pour pouvoir répondre à leurs déchéances importantes. Vous, vous vous sentez, avec Campus Junior aussi, investi d'une sorte de mission?
Non. Non, mais oui, alors, oui, peut-être qu'on a une, oui, on a une mission d'information, d'éducation, comme on disait, etc. Mais comme ça, tous les jours, quand je vais au travail, j'ai pas une mission sur le dos. Mais je pense que c'est nécessaire. On fait de la science pure dans Campus Junior et de la science souple, comme on dit, des sciences humaines. Et oui, on est là pour ça. On est là pour leur apprendre, pour leur ouvrir l'esprit, pour que ce soit pour des votations ou simplement des sujets de discussion dans la cour d'école, qu'ils aient petit à petit des arguments, qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent avoir des connaissances pour étayer, pour débattre et pour échanger. Et ça, je pense que c'est nécessaire pour des votations. Vous n'étiez peut-être pas né encore, Fantin, quand il y a eu la votation sur les OGM, mais ça a provoqué en Suisse, mais c'était pas les OGM, le génie génétique, c'est un peu la même chose, mais ça a provoqué un tsunami, parce que tout d'un coup, les scientifiques à l'époque, et c'était il y a longtemps, se sont dit « Ah ouais, mais en fait, on n'a jamais dit ce qu'on faisait. » Et les gens ont peur. Et à partir de là, il y a eu cette envie. Ça a pris beaucoup de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, les mômes, on leur donne cette possibilité, par là, de se questionner, de découvrir, d'apprendre, pour avoir ensuite les armes pour comprendre le monde qui les entoure.
Pour moi, ça ressemble passablement à une mission quand même. C'est...
Oui, oui, mais alors tous les jours, quand je vais sur mon vélo à la télé, je ne me dis pas ouf, quelle mission j'ai. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
Science et Vie Junior, c'est du concret, c'est le premier numéro. Vous êtes satisfaite du résultat? Vous avez mentionné...
C'est Campus.
Campus, oui.
Oui. Mais Science et Vie Junior, ça existe aussi.
Justement, je voulais le mentionner. Oui. Parce que je voulais vous demander quelle est la différence.
C'est pas le même public. Science et Vie Junior, c'est pas le même public que Campus Junior. Science et Vie Junior, c'est pour les un peu plus grands. Mon grand le lit, donc je vois bien. Nous, c'est pour les plus petit, et puis surtout on parle de science qui est faite chez nous. C'est ça là aussi
c'est
la différence.
C'est le caractère régional vraiment qui fait la différence.
Oui, plutôt. Effectivement, oui.
Sujets internationaux, il y a par exemple un dossier très très joli sur un peintre.
Oui. Mais oui, parce que ça aussi, c'est de la science. Ça aussi, on comme je dis, on fait pas que de la science dure. On essaie d'ouvrir. Vermeer, on dit aux enfants, tu connais Vermeer? Et surtout, plein d'enfants vont dire non, mais si, tu connais. Regarde, tu te souviens des fois, tu achètes des yaourts en supermarché, la laitière, et on a tous vu les pubs à la télé, etc. Ben, en fait, ils sont inspirés d'un dessin de Vermeer, etc. Et on essaie de leur expliquer comment ils travaillaient et comment ça se passait en ce temps-là. Et ça aussi, c'est de la science.
Alors, pour fabriquer, par exemple, un dossier, est-ce que vous vous donnez l'occasion de partir en reportage où vous n'avez pas les moyens? Parce que vous avez des dossiers qui sont quand même assez étoffés.
Ça dépend ce que vous appelez reportage. Parce que...
Sur le terrain.
Oui. Alors, par exemple, pour faire le dossier qui est dedans sur Planète Solaire, je peux dire que je suis partie en reportage sur le terrain parce que je suis montée à bord de Planète Solaire quand il est arrivé à Venise, pour faire une interview, entre autres, pour le webdop qui va paraître dans 2 jours sur Planète Solaire. J'étais là-bas, j'ai été rencontrer tous les marins, je les connais, on a discuté, j'ai passé du temps avec eux. Ça s'est fait parce que j'avais aussi la possibilité d'y aller et que c'était plus facile ensuite d'écrire. C'est toujours plus facile quand on connaît les gens. Mais on va rencontrer les scientifiques, on va discuter avec eux dans leur bureau. On leur fait pas juste un coup de fil en disant, au fait, on fait un truc, vous pouvez relire le texte. On va rencontrer les gens parce que c'est comme ça qu'on en parle le mieux.
Et ça se sent. Au menu du prochain numéro Campus Junior, des belles propositions.
Oui, les exoplanètes, évidemment un grand dossier sur les exoplanètes, donc les planètes qui ne sont pas dans notre système solaire.
Donc, première découverte en 1995, et depuis, elles sont des centaines et des centaines et des centaines, alors qu'à chaque nouvelle planète, on était comme ça vraiment ébloui. Oui. Michel Mayor venait régulièrement nous en parler avec Didier Queloz. Et maintenant, si on en a trouvé une qui ressemblerait à la Terre?
Alors, on en trouve chaque fois, je sais pas, vous entendez les actualités, c'est chaque fois
chaque
on dit
fois une nouvelle.
Oh, une petite tête qui ressemble à la Terre. Puis quand vous allez vraiment bien dedans, il y a encore beaucoup de suppositions. Mais c'est ça qu'on recherche, c'est la vie extraterrestre. Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers ou pas? Et c'est ça qui rend effectivement la quête extraordinaire.
Donc il y aura ça.
Il y aura ça. Il y aura un article sur Shakespeare. C'est-à-dire ça, c'est le côté
après
aussi.
Après
Vermeer, c'est Shakespeare et le théâtre de Shakespeare. Et qu'est-ce, comment il travaillait et qu'est-ce qu'il apporte de différent. Il y aura des petits dessins aussi sur les antibiotiques, comment ça fonctionne, les antibiotiques. Il y a toujours une page RTS découverte. Comme on sera aux alentours, ben, ça va paraître début mars, sur les saisons. Je me suis retrouvée dans la main avec mon fils de 7 ans à qui je devais expliquer pourquoi tout d'un coup il faisait moins jour et que la nuit tombait plus vite, etc., en allant faire mes courses. Et ça m'a aussi inspirée pour essayer de leur expliquer pourquoi il y avait des saisons et qu'est-ce qu'on appelle l'équinoxe et le solstice.
En fait, vous testez Campus Junior sur vos enfants?
Oui. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Non, les grands pas, parce qu'ils sont un peu grands et que pour eux, malgré tout, ils sont fatigués, quoi. Encore ton truc, ouais, monte, file. Parce que je leur montre qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais sur le plus petit, oui, parce qu'il a l'âge du début de campus. Effectivement, c'est des cobayes totales, quoi.
Et puis, à mentionner que ce jeudi événement,
oui,
TSR.
Oui, un bel événement. Je suis très fière. Et on a coproduit pour la première fois un webdoc avec Arte, entre RTS Découverte et Arte Futur. Arte Futur, c'est la plateforme, un peu comme RTS Découverte d'Arte. Et on va mettre à l'antenne, entre guillemets, parce que c'est pas l'antenne de la télévision, mais c'est l'antenne du web. On va mettre à disposition des internautes le premier webdoc qu'on a coproduit sur justement l'aventure de Planète Solaire, où on raconte de la conception à la construction, le tour du monde, et ensuite la deuxième vie de ce bateau qui a vraiment pris une formule scientifique pour accompagner les chercheurs de l'université de Genève et d'autres universités aussi en Grèce par exemple, pour aller faire Deep Water qui était analyser le Gulf Stream en Atlantique en 2013 et en 2014 où ils sont allés sonder les fonds marins en Grèce pour essayer de retrouver un village englouti. Donc on raconte tout ça et franchement, donc il y a 4 chapitres, vous pouvez aller les voir, il y a des interviews complémentaires pour les férus d'électronique et même découvrir d'autres scientifiques. Mais ça vous permet pour la première fois d'aller voir comment ils ont construit ce planète solaire. C'est un monstre, quoi. C'est extraordinaire. Et puis de suivre les scientifiques et comment ils ont travaillé sur ce bateau concrètement en descendant leurs petites sondes dans l'eau, etc. On découvre tout ça en images. On prend part à cette aventure. Et franchement, ces chercheurs, ils sont passionnants et passionnés.
Alors, une des grandes choses, il faut quand même qu'on en parle juste avant de clore, qui a changé dans nos modes de communication, c'est l'interactivité. Sur TSR Découverte, il y a des plateformes où on peut poser des questions à des scientifiques. Ça, c'est très important.
Oui, alors sur RTS Découverte, on propose toujours ça, c'est-à-dire de la possibilité de poser des questions directement aux chercheurs des universités romandes. Donc, on leur pose des questions. C'est sur notre forum. Si vous allez sur RTS Découverte, il y a marqué questions-réponses. Mmh. Vous cliquez et tout le monde... Enfin, on a déjà énormément de questions qui ont été posées et de réponses qu'on trouvait... Enfin, de questions auxquelles on a apporté des réponses. Et il y en a plus de 3000 déjà maintenant. Et ça, c'est la possibilité de réunir directement les scientifiques et les internautes.
Tania Chitil, on va conclure avec ce que déclarait tout à l'heure Emmanuel Giacometti. On ne peut malheureusement pas tout dire. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose?
Non, je crois pas, mais découvrez, allez cliquer, regardez et intéressez vos enfants, quoi. Parlez-leur, ils demandent que ça.
Campus Junior, c'est gratuit. Le premier numéro est sorti en décembre. Prochain rendez-vous en mars.
Exactement. Et pour s'abonner, c'est facile. C'est universiteunige.ch/campusjunior. Et puis pour le webdoc, si ça intéresse les gens, c'est sur la RTS, sur RTS Découverte. Sinon, c'est rts.ch/planète solaire. C'est facile.
Magnifique.
Dès jeudi.
Merci Tania Chitil. Merci à vous Fantin Moreno, 6/6 pour ce premier Babylone. Merci également à Nicole Corpato, notre assistante de production, et à Mathieu Ramsauer pour sa merveilleuse réalisation. Vous écoutez Espace 2, grand merci, il est 10h.